Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 8 ans, j'habite aujourd'hui en Picardie depuis 6 mois et j'ai passé toute mon enfance à Mayotte. Je voulais vous dire comment Mayotte est devenue française. En fait, elle était souvent attaquée par les pirates malgaches et les Maoris se sont réfugiés à Petite Terre. Et le sultan a demandé de l'aide à la France. J'en profite pour dire bonjour à mes copains clandestins de Combani et à mes instituteurs de l'école publique de Combani et de Miré-Rény. Au revoir et merci. Ah oui, un grand bonjour à mon super copain Élie. Au revoir. Et mon petit frère voudrait passer un bonjour à Maman H.
Vas-y.
Au revoir.
Oui, c'est Charlie de Bordeaux, là. Je suis en train d'écouter l'émission de ce jour, du lundi. Et je me permets de conseiller à Monsieur Sarkozy et Cécilia, pour leur second voyage de noces, Mayotte. Ça a l'air très bien. Très, très bien. Je vous remercie. Au revoir.
Oui, alors bonsoir, Mermé. Nous avons écouté votre émission avec beaucoup d'intérêt, puisque nous habitons sur Mayotte depuis quelques années. Bravo pour votre émission. Elle reflète exactement la situation de cette île. Merci beaucoup de faire parler les sans-papiers, parce que c'est pas toujours qu'on leur donne effectivement la parole. Ils font partie intégrante des Comores, par leur religion commune, bien sûr, leur langue, et même leur famille. Dans l'émission, vous avez parlé des médias qui manquent particulièrement de pluralisme, c'est exact. Mais il y a quand même un journal qui essaye de parler de tout ceci depuis sa création. Et ce journal est imprimé en Grande Comore, il s'appelle le Kashkazi. Il parle effectivement des situations des quatre îles. Et en fait, c'est par ce journal qu'on sait effectivement ce qui se passe dans les autres îles, qui nous intéresse, même si on est Zungu, pour notre culture et pour la connaissance qu'on a de ces îles voisines. Merci encore pour cette émission qui fait connaître une situation dramatique de ces sans-papiers à nos concitoyens de métropole qui ne savent pas toujours ce qui se passe et ce qu'ils vivent tous les jours.
Bonsoir à tous, c'est Philippe qui appelle, sinon de la douce, du moins de la riche Île-de-France. J'ai pris sur le tard votre émission sur Mayotte. Il n'est pas nécessaire d'être fin voyageur pour constater cette tendance. Depuis une vingtaine d'années, dans nos néocolonies que sont les Dom-Tom, les populations de gènes estampillés Label France supportent de plus en plus mal les illégaux clandestins de Polichinelle. Il se passe le même phénomène dans les Antilles françaises avec des Haïtiens et des Dominicains, en Guyane française avec des Brésiliens. La situation explose donc à Mayotte, par ces étrangers, pauvres, musulmans, triple tard. L'équation démographie galopante, espace vital, emploi disponible égale Mayotte aujourd'hui. Il s'agit bien en fin de compte d'inégalités de partage des richesses. Lisons donc ce roman du voyageur Jean Raspail, écrit dans les années 1970, « Le camp des saints ». Prophétie visionnaire pour certains, délire réactionnaire manichéen pour d'autres. À bientôt pour de nouvelles mésaventures.
Bonjour Daniel, eh ben aujourd'hui c'est pas bien clair ton affaire de Mayotte, là on comprend pas bien, tu commences par nous expliquer que, d'abord c'est très loin, c'est vrai qu'on en entend jamais parler, mais tu commences par nous expliquer que Mayotte a choisi d'être français, que les autres ont choisi d'être indépendants, ce qui est tout à fait bien, et pourquoi ils sont pas tous indépendants, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Et voilà que maintenant Mayotte apparaît comme un petit paradis où tout le monde veut venir, et puis toi alors on cherchait un peu ta position, ça a l'air d'être de laisser venir tout le monde. Je sais pas, tu veux que ça pète ou quoi, je saisis pas bien cette affaire, je vois pas bien ce qu'on peut défendre là-dedans, à part que ces gens s'organisent, soient indépendants et puis qu'on s'en aille de là, qu'est-ce qu'on fait à l'autre bout du monde. Voilà, j'espère que tu vas expliciter un peu tout ça, parce que on peut pas vouloir tout et son contraire. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Mohamadi de Mayotte. J'écoute régulièrement ton émission formidable, humaine et dérangeante. Dérangeante parce qu'elle dit ce que l'on entend nulle part ailleurs. Et sur Mayotte, hier, c'était la première fois qu'on entendait dire un certain nombre de vérités qu'on a tendance à taire ailleurs dans la presse écrite ou audiovisuelle. Et oui, la France est condamnée par l'ONU pour sa présence sur ce que l'ONU appelle elle-même l'île comorienne de Mayotte. En fait, elle est condamnée pour un principe simple qu'elle ne respecte pas, c'est le principe de l'intangibilité des frontières coloniales. Ça veut dire que au moment de son indépendance, tout pays doit retrouver ses frontières d'avant, c'est-à-dire ses frontières pendant la colonisation. On peut vérifier, hein, ça marche dans tous les pays anciennement colonisés, d'Afrique ou d'Asie, très majoritairement, ou ceci, ce n'est pas tous les pays. Alors je voudrais aussi rappeler à tous les auditeurs que lors des élections présidentielles de 1974, au deuxième tour, les deux candidats de l'époque savaient que ça allait être serré. Les Comores, qui à ce moment-là étaient un territoire d'outre-mer, votaient dans les élections françaises et représentaient environ un demi-point. Alors évidemment, les deux candidats que tout le monde connaît très bien, puisque c'est Giscard et Mitterrand, ont tous les deux promis aux Comoriens que la lecture du résultat du référendum qui allait avoir lieu pour savoir si les Comoriens voulaient leur indépendance ou souhaitaient rester dans le giron français, eh bien l'analyse de ce résultat, du résultat de ce référendum, allait se ferait globalement et non pas île par île. On sait que c'est Giscard qui a remporté les élections, grâce aussi aux voix des Comoriens, mais il n'a pas pu tenir sa promesse, probablement à cause des lobbies maorais pro-français. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Mohamadi de Paris.
Voilà, alors je ne sais pas si tout ça vous éclaire beaucoup sur le sujet qu'on a entamé hier, c'est-à-dire Mayotte et les Comores. Je pense quand même, et vous sentez bien, qu'il y a de l'intérêt, il y a de la passion, il y a de la polémique sur ce confetti lointain dont la plupart des Français de métropole, il faut dire Français de métropole maintenant, ignorent sinon tout, presque tout. Voilà pourquoi on continue aujourd'hui à Mayotte, et non seulement à Mayotte, et ben on va aller aussi dans les Comores, on va aller exactement à Anjouan, une des îles des Comores, d'où viennent ces irréguliers qui, selon certains, seraient vraiment le péril qui menacerait l'île française de Mayotte. Alors voilà, pour beaucoup, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une découverte, évidemment pas pour les auditeurs qui nous écoutent à Mayotte, alors qu'il est France Inter est très très écouté à Mayotte. Il est 2 heures de plus là-bas, il doit être à peu près 19h à Mayotte, donc je salue les auditeurs de Mayotte et ceux de partout, et on continue aujourd'hui la balade, la découverte et les problèmes qui se posent entre ce petit confetti, ce lointain confetti de l'Empire, son entourage, c'est-à-dire les Comores, et puis le reste du monde, juste après les messages que voici, que vous avez laissé sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, salut Daniel, et allez, un repère de plus. Ce coup-ci, c'est à Ganges, dans l'Hérault, les portes des Cévennes. Alors la première aura lieu le mercredi 15 janvier, à partir de 18h. Les haltères jusqu'à plus soif vont se réunir. Et même jusqu'à plus fin, puisqu'on ira jusqu'au bœuf de chaque mercredi, au bar du siècle, chez Virgile et Paulette et leurs filles, les patrons sympas.
Oui, bonjour, ici Baïja Bougara de l'association Avec Redouane. J'invite toutes les personnes qui souhaitent participer à notre journée de commémoration à la mémoire de Redouane Bougara, donc le boxeur champion du monde décédé en 1998, à nous retrouver le samedi 14 janvier à la maison de quartier des Louvrais au bout de l'avenue Redouane Bougara, maison de quartier des Louvrais à Pontoise dans le 95, à partir de 14h30 pour une après-midi autour de la mémoire de Redouane et pour lui rendre un hommage. Merci de diffuser ce message et bienvenue à tous. Au revoir.
Il n'y a pas de problème. Bon.
Bonjour monsieur. Vous allez bien?
Ça va? Oui. Vous sauter avant qu'on touche l'eau, c'est ça? Voilà.
Mais les toilettes, on n'a pas interdit d'utiliser les toilettes quand on est effectivement au stationnement.
Non, c'est l'appareil qui transpire.
Monsieur le ministre, nous ne vous affligerons pas l'interview.
Alors, le, je ne sais pas questionner
l'ambassadeur
et son fils gendarme à l'Élysée. Là, fait partie des 287 gendarmes. Qu'est-ce que tu as dû lui demander? Non, il y a un bataillon.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Massy, j'y suis avec Guy Ventil, Mayotte, un confetti explosif.
Flight number 2, arriving from...
Vous avez des bagages?
Oui.
Oui, tu prends les bagages qu'il y a dans la soute, hein? Oui.
Alors là, on descend. Et voilà les bouquets de fleurs.
Merci.
C'est parfumé, hein.
Ah, c'est l'arrivée en juin, c'est quelque chose, hein. Il y a des officiels qui sont là avec leurs beaux costumes, leurs belles cravates. Et puis des femmes là-bas qui font des chants et le bienvenu avec les tambours. Et puis on a des colliers de fleurs qui sont très très beaux autour du cou. Voilà, et comme toute la délégation parlementaire, toute la mission parlementaire, et avec des... voilà, vous êtes parfait. Là, vous êtes absolument parfait.
Il y a un blanc ou une blanche qui est là-bas, qui me fait des signes.
Je pense qu'il y en a un d'entre nous qui doit être connu d'ici.
Alors voilà, on est dans une mission officielle, une mission d'élus français qui viennent, une mission de parlementaires français qui viennent à Mayotte et dans les Comores essayer de comprendre un petit peu la situation. Pourquoi ? Parce que on se dit, on arrive au point de rupture, il y a un risque, il y a un danger. Le titre qu'on a donné à cette série de reportage, un confetti explosif, les uns et les autres pourraient le reprendre à leur compte. Ce titre, les uns et les autres, c'est des députés aussi bien UMP que PS, que communistes, QDF, qui sont venus sur place en cette fin décembre pour essayer d'évaluer la situation, la question évidemment de l'immigration entre guillemets clandestine, les relations entre Mayotte et les trois îles des Comores voisines, et qui essaye de comprendre la situation suite évidemment à cette tonitruante déclaration du ministre de l'Outre-mer concernant l'affaire du droit du sol. Alors sur cette pourquoi a-t-il eu cette déclaration. Je rappelle que Mayotte, un auditeur, disait c'est flou. Oui, mais on ne peut pas apprendre tout comme ça en l'espace de quelques minutes dans le poste. Mayotte, c'est une île de 374 kilomètres carrés avec autour de 180 000 habitants, et on avance des chiffres. En gros, 1 sur 3 de ses habitants est un étranger, est en situation irrégulière, est un clandestin. Parce que tous ces mots-là ont leur importance, et en même temps, oui, ce sont des étrangers, mais l'auditeur dans le message qu'il a laissé indiquait ce contentieux, cette polémique entre Mayotte, la française, et les trois îles des Comores devenues indépendantes en 1975 suite à ce fameux référendum qui a vu trois de ces îles devenir indépendantes et Mayotte rester française. Décision et choix contesté par l'Organisation des Nations Unies et par l'Union africaine. Il y a là une vieille polémique. Les Comores, c'était quatre îles qui étaient sous souveraineté française jusqu'à cette date de 1975. L'une des îles a choisi de rester dans le giron français, c'est le point de vue de la France, mais c'est pas le point de vue de, en droit international, c'est pas ce que retiennent les Nations Unies, qui, à travers une suite de résolutions, condamnent régulièrement la France pour sa présence sur Mayotte. Alors, vous voyez, c'est lointain, on est à 10 000 km de Paris, on est à 1500 km de l'île de la Réunion. C'est des sujets très très locaux, très restreints, mais qui passionnent évidemment les gens de Mayotte, qu'ils soient maorais, qu'ils soient des mzungu comme on dit, c'est-à-dire des métropolitains qui sont là pour quelques années. Mais voilà que la pression, les manifestations de l'automne dernier commencent à inquiéter sérieusement dans cette perspective, évidemment, d'élection présidentielle, d'inquiéter très sérieusement les milieux politiques français, au point d'envoyer une mission parlementaire qui rendra, je crois, ses conclusions dans les semaines qui viennent. Donc on les a accompagnés pendant une journée pour voir un petit peu d'abord comment ça fonctionne, une mission parlementaire, et puis pour interroger certains de ces députés qui sont d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas qui comprennent évidemment comme nous là que c'est difficile à comprendre que la situation est très complexe et qu'il y a évidemment en tous les cas ce qui est très très clair, il y a eu une stigmatisation, il y a eu une instrumentalisation et une politique qui a consisté quand même à pousser à la xénophobie à l'automne dernier. Et il faut trouver des solutions. C'est un problème très compliqué, très passionnant. Voilà pourquoi nous sommes ensemble à Mayotte, à Anjouan, dans les Comores, jusqu'à 18h dans la passion. Essaye de se débrouiller à vendre trois petits trucs et tout. Ça vous arrache pas le cœur de devoir les chasser, enfin, quand vous les faites chasser comme ça?
Pas du tout, mais ça permettra aux Mahorais de pouvoir avoir cette place-là et de vendre la place de ces clandestins.
Donc, votre politique, si je le répète, comme Jean-Marie Le Pen nous disait, la France aux Français, vous dites Mayotte aux Mahorais.
Priorité aux Mahorais. Le Comorien en situation régulière, moyennant sa carte de séjour de 5 ans, peut très bien vendre sur ce marché-là en se faisant déclarer à la chambre professionnelle. Ce n'est pas la même chose que quand on a un clandestin. Un clandestin, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs en délit. Donc même n'importe quel Mahorais peut dénoncer celui-là. Peut le dénoncer pour qu'il puisse être rapatrié. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas la même chose que ce que dit Jean-Marie Le Pen. Ouais, pour moi, c'est comme ça.
Pour Ali Souf, que nous retrouvons aujourd'hui, et je rappelle qu'il est maire de Ntsingoni, une des communes de Mayotte, il est président de l'association des maires de Mayotte, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, et président de l'association des maires de Mayotte, qui parle à peu près tous comme lui, il y a un maire qui fait entendre une autre musique, mais enfin, à ce niveau-là, il y a une unanimité pour chasser, oui, c'est la même chose, les sans-papiers venus des Comores, Anjouanais dehors, les habitants d'Anjouan, l'une des îles des Comores, Anjouanais dehors, on a pu voir des banderoles dans des manifestations à l'automne, on a pu voir des choses quand même assez violentes, par exemple la ville de Sada, l'une des villes de Mayotte, a pris un arrêté municipal pour ficher les clandestins ainsi que ceux qui les hébergent. À Pamandzi, par exemple, une autre commune, le maire a défilé avec sa ceinture d'élu en hurlant dans un porte-voix anjouanais dehors. Selon le député UMP Mansour Kamardine, Mayotte est colonisée par les Comoriens, je le cite. Je le citais, le maire de Kungu est le seul à avoir refusé de s'associer à cette fièvre ambiante d'expulsion, de reconduite à la frontière. Il faut dire que la reconduite, on va le voir, est une activité entre 1998 et octobre 2005, 46 032 étrangers sans papiers ont été reconduits. 46 000, c'est un vrai travail à plein temps pour la police de l'air et des frontières, pour des gendarmes, des policiers, etc. C'est un vrai boulot, plus des radars, plus des vedettes maritimes, plus, alors pourquoi pas un jour la construction d'un mur, on pourrait s'inspirer de nos amis israéliens pour construire un mur autour de cette île de Mayotte, et pourquoi pas au-dessus, parce qu'il finirait bien par passer par-dessus. On voit bien qu'on est là quand même dans quelque chose d'assez délirant et d'assez préoccupant. Ali Souf.
J'ai pris des notes là, de cette manifestation contre les clandestins. À l'appel de l'UMP, on invite les Mahorais à chasser leurs clandestins. Oui, il paraît que c'est des mots qui ont été prononcés par Mansour Kamardine, qui est le député UMP.
Effectivement, on invite les Maoris à chasser les clandestins.
C'est quand même costaud, ça, de demander aux gens de...
Pas du tout, pas
vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la loi du 26 avril 2000, l'ordonnance du 26 avril 2000, qui réprime sévèrement le Maoré qui hébergerait un clandestin, le Maoré qui aiderait un clandestin à rentrer à Mayotte, le Maoré qui ferait travailler un clandestin. Cette ordonnance est méconnue des Maorés. Il y a lieu de la le rappeler. Donc on a fait un rappel, justement, de ce qui est prévu par la loi. Une amende de 50 000 francs, pardon, ou alors de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Donc la loi, c'est l'ordonnance qui précise tout ça. Et donc, inviter le Mahorais à chasser les clandestins qu'il a, c'est vrai.
Il le faut,
parce que c'est le Mahorais, en fait, qui est plutôt pointé du doigt par l'État. Parce que l'État a laissé ces personnes rentrer à Mayotte. Les Mahorais les utilisent, les Mahorais les hébergent. Et donc maintenant, l'État dit, attention, vous les avez à Mayotte, mais vous risquez d'être réprimés sévèrement par la loi.
Des expulsions d'enfants à Mayotte depuis quelques semaines, des enfants renvoyés en Anjouan avec leurs parents en situation irrégulière. Des expulsions qui posent un problème à la fois juridique et humain. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Mayotte. Ouvrons ce journal par l'épineux dossier de l'immigration et des expulsions qui concernent également des enfants mineurs. des expulsions qui posent un problème juridique et humain, la rupture de leur cursus scolaire et leur passage au centre de rétention de Pamandzi. Explication Nicole Gello, Hachim Saïd Hachim.
C'est dans une fourgonnette comme celle-ci que les mineurs expulsés de Mayotte effectuent leur dernière traversée de grande terre vers petite terre. Depuis quelques semaines, des enfants en bas âge accompagnent leurs parents dans les camions qui les reconduisent à la frontière. Aujourd'hui, il n'y a que des adultes, ce qui n'était pas le cas le 23 décembre dernier. À la Ligue des droits de l'homme, on dénonce de telles expulsions.
La Ligue des droits de l'homme de Mayotte s'érige contre cette pratique qui consiste à prendre des enfants qui sont en âge, qui sont mineurs, hein, et qui sont protégés par la loi. Hein, et on voudrait que le droit soit respecté. Ils ne sont pas expulsables.
L'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers le précise. L'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduite à la frontière. Sollicité pour s'expliquer, la préfecture de Mayotte n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, du pain gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit et tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, monsieur. On prie. Puis y'a l'autre, des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une peigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas, monsieur. On triche.
Qu'est-ce que vous faites à la ville?
Bon, nous allons chercher de quoi vendre. Par exemple, les feuilles de manioc, les feuilles de tarot, les manioc, les bananes, nous les vendons pour que nous puissions avoir quelque chose à donner aux enfants.
Mais vous habitez où?
Là, au Komoni.
Nous venons de Domoni. Nous habitons à Komoni, mais nous, on achète à Domoni. Et là, nous revenons, on vient vendre au village. Ah, mais ça fait combien de kilomètres, ça? Ça fait combien de temps à pied?
Nous partons à 4h du mat, et puis à 9h, on est à Domoni.
Et ça, ça fait 5 heures de marche.
Ça fait 5 heures de marche
matin,
à l'aller et 5 heures de marche au retour.
Donc, dans une journée, vous marchez 10 heures.
On achète des brettes de mafan, bon, on les vend en village et nous gagnons 25 francs de bénéfice pour chaque tas.
25 francs, comme rien.
C'est 5 centimes d'euros.
Ah, c'est l'équivalent de 5 centimes d'euros par tas. Mm-hmm. Vous vendez combien de tas dans la journée?
Là, vraiment, si ça marche très bien, j'arrive à vendre 20 tas, donc je gagne 1 euro.
1 euro par jour. Ça, c'est des bonnes journées.
Ouais.
Voilà, on est à Anjouan, donc je rappelle l'une des îles des Comores, et on est en train de rouler à travers cette île très petite, très belle, très très belle, et très 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 très, très pauvre. Et comme on a, vous savez, un véhicule, un pick-up, et ben on prend les gens en stop et on les emmène, on les rapproche. Et donc on a rencontré ces trois femmes comme ça qui ont été toutes contentes de monter à bord. Et en descendant, ben, on leur a demandé un petit peu comment elles vivaient, où elles allaient, trois femmes comme ça qui marchaient ensemble avec des gros sacs sur la tête. Voilà les femmes, voilà les gens, voilà les fameuses personnes qui menacent Mayotte, qui doivent être renvoyées. Je parle des clandestins, de ceux qui tout naturellement, tout simplement viennent à Mayotte, ben parce que on y vit mieux, parce que voilà, c'est tout simple, parce que depuis très longtemps beaucoup de monde. Et il y a ce lien particulier, ce lien de famille. C'est un phénomène migratoire très particulier que celui-là, compte tenu des liens historiques. J'en ai parlé hier. Cet archipel des Comores, c'est une histoire commune, c'est une histoire ancienne, c'est un métissage, un mélange très très ancien qui s'est fait au fil du temps et de l'histoire, donc qui a créé, il y a des liens historiques, des liens culturels, des liens familiaux aussi, que cette indépendance est venue couper. Et de plus, pour limiter cette immigration, en 1995, c'était le gouvernement Balladur, et bien Charles Pasqua à l'époque a imposé un visa pour les habitants des Comores qui veulent venir à Mayotte, un visa difficile à obtenir, ce qui évidemment a renforcer ce sentiment de frontière et de rupture et de séparation, accompagné aujourd'hui de ce travail d'exacerbation, de création du bouc émissaire, etc., d'exploitation enfin de la figure de bouc émissaire. Ben, les boucs émissaires, les voilà, ce sont ces femmes qui cheminent. Et vous avez combien d'enfants ?
J'ai 4 enfants.
Vous ?
Oui.
J'ai 2.
2 ?
Moi, l'année.
8.
Et pour la santé, comment vous faites ? Pour vous soigner, pour soigner les enfants, comment vous faites ?
Ça, c'est un problème parce qu'au village, il y a un dispensaire. Mais pour aller là-bas, il faut toujours payer. Donc, si j'ai l'argent, j'amène mes enfants à l'hôpital s'ils sont malades. Si j'ai pas d'argent, j'y vais pas.
Bah oui, mais alors, si c'est grave.
Alors là, je laisse Dieu juger lui-même, parce que sans argent, de toute façon, on peut pas soigner.
Est-ce que vous avez pensé à partir ?
Bon, déjà, pour partir d'ici, il faut de l'argent.
Uh-huh. Il faut combien d'argent ?
Il faut 50 000 francs comoriens, ce qui équivaut à 100 euros.
100 euros. Alors, quand on gagne au mieux 1 euro par jour, ça fait 100 jours, mais à condition de rien faire d'autre. Donc, il faut économiser. C'est très difficile à économiser 100 euros.
Tu ne peux pas. De toute façon, avec ce que nous faisons, tu ne peux pas économiser jusqu'à avoir 100 euros.
Et vous ? Vous êtes allé à Mayotte déjà ?
Je ne suis jamais allé à Mayotte.
Et vous avez eu envie déjà ?
Moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'avec les enfants que j'ai, ça ne me tente pas du tout. Moi et mon mari, on a un petit jardin potager, c'est là où on travaille.
Et puis on vit comme ça ?
C'est pas une belle vie, ça. Bon, on survit.
Ouais. Qu'est-ce que ce serait la belle vie ?
matuju mesha mazuri. Sikilazi mwani ripare hazi, rifanyo rifanyi, ripare marikeri ngalia wanatu wa kefete. Nazwa savani kasi.
La belle vie pour moi, c'est trouver du boulot, travailler et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir survenir à, aux besoins de ma famille. C'est ça la belle vie. Nous aussi, on croit ça.
Mais la vie n'est pas toujours aussi dure. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est les moments de fête, les moments où vous vous amusez, les moments...
Oui, nous, c'est rare, hein, parce que c'est le jour de l'Eid après le Ramadan.
Le jour de la Eid.
Ah oui, ça c'est pour nous c'est sacré.
Ah, on fait cuire du mouton.
On économise juste pour pouvoir acheter de la viande, soit de la viande de bœuf, soit de la viande de cabri, parce que ce jour-là, il faut toujours manger de la viande ou du poulet.
Et le reste du temps, dans l'année, vous mangez de la viande ?
Même peu, mais on arrive quand même à avoir de quoi manger en viande ou en poisson.
Ok, bon, ben on va vous souhaiter bonne route alors.
Encore une heure de marche.
Ouais, encore quand même une heure à marcher. Pas très loin d'où on a rencontré ces femmes, vers Comoni, une des villes bourgades, disons, d'Anjouan, et ben on aperçoit Mayotte, 70 km, 80 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau ou à vol de Kwassa, c'est ainsi qu'on a baptisé les bateaux, les barques, on peut dire des barques, oui. À bord desquels montent les candidats au passage, à la clandestinité. Kwassa, c'est une danse de Kinshasa. Les Kinois sont les rois de la musique, on le sait bien depuis longtemps en Afrique. Et Kwassa, c'est une danse très très gaie et ça balance comme ça. Donc voilà, on a baptisé ainsi ces bateaux qui sont, c'est de l'humour noir, parce que souvent, on l'a dit déjà hier, et vous le savez, c'est des bateaux c'est un peu les bateaux de la mort. Quelqu'un le disait hier, un clandestin arrivé sans papier, arrivé à Mayotte, disait qu'il avait acheté la mort en payant son passage. On avance des chiffres depuis 90-95, environ 5000 personnes sont trouvées la mort au cours de cette traversée périlleuse. C'est un véritable cimetière marin, je le disais hier. Donc on part de ces côtes. On part de ces côtes, d'Anjouan. C'est une véritable activité. C'est une branche de l'économie. Hein, et il y a des passeurs, évidemment. Et oui, comme toujours, comme partout dans ces situations, si on crée un obstacle, eh bien, quand il y a une telle poussée, une telle pression pour des raisons évidentes de différentiel social, d'inégalité, les hommes finissent toujours par passer par-dessus, par-dessous, par où on voudra, mais ils finissent par passer. On l'a vu récemment en Afrique, c'est actuellement le cas à Sangatte, etc. Évidemment que Mayotte et les Comores ne font pas exception. À cette différence près, encore, je le souligne bien, c'est les liens historiques, culturels et familiaux qui existe entre les uns et les autres habitants des Comores. Alors, je parlais des passeurs, et ben voilà des passeurs. Qui sont ces passeurs? Qui sont ces affreux passeurs qui, évidemment, se font de l'argent avec ce désarroi? Et ben on en a rencontré deux, qui se sont alors confiés, et c'est même pas confiés, qui nous ont expliqué quelle était leur vie, leur situation, et combien tout ça coûte. On est à Anjouan, aux Comores. Alors là, raconte-moi un peu, Jimmy. Là, c'est une plage dont vous avez l'habitude de partir. Mais pour pouvoir sortir, là, il faut qu'il y ait une passe, parce que ça, c'est la barrière de corail, là. Hein,
on passe comme ça.
Ah, c'est là-bas,
jusqu'à
la passe.
Là-bas, ouais. Là-bas,
il y a la passe.
Ouais.
On lissait tous les chemins ici.
T'en es à combien, toi, Jimmy?
Passage d'aller à Mayotte?
Ouais, d'aller à Mayotte.
Ah, il y a presque 6 ans que j'ai travaillé les boulots.
Donc tu sais plus combien tu as fait de voyages.
Ah ouais, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelques fois, j'ai fait deux fois une nuit, trois fois une nuit.
Trois fois de suite?
Ouais. Et je laisse là-bas, après je viens. Je prends encore des passagers.
Alors combien de temps on met pour aller là-bas?
2h30 ou 2h.
D'accord, d'accord. Ouais. Alors toi aussi, tu fais pareil?
Si, si. Moi, j'ai commencé ce travail depuis l'enlèvement du visa aux Comores.
En 95?
En 95. mais tous mes voyages, j'ai fait mes voyages à Makele. Ça, c'est une zone isolée. Donc, le gouvernement ne me voit pas. Parce que ça, c'est tout près de la côte de Mayotte. Je fais une heure de temps comme ça.
À qui ça appartient d'abord, ces bateaux?
Non, ces bateaux appartiennent à nous. Nous avons fait sous forme d'une société à cause de la crise. Parce que l'État ne donne pas d'emploi à faire. Donc, pas d'emploi à faire. On est obligé de nous vendre nos champs, nos bœufs pour acheter le quoi ça, quoi ça, pour qu'on puisse vivre.
Alors toi, t'en as combien des bateaux?
J'ai commencé depuis 1995. J'avais 5 bateaux. Mais le premier sont pris à Mayotte. La deuxième est pris encore à Mayotte. Le troisième et le quatrième sont tous pris à Mayotte. À ce moment, j'ai le cinquième.
Ah, ils t'en ont pris, ils t'en ont confisqué 4 déjà?
4 ouais. Déjà.
À chaque fois, tu perds un bateau?
Oui, oui. Ils sont confisqués parce que mes capitaines ne sont pas assez intelligents.
Capables.
Ils ne sont pas capables, ne sont pas intelligents de se faire ces travaux.
Ah, parce que toi, tu ne la fais pas toi-même, la traversée. C'est des capitaines.
Non. J'ai des employés. J'ai des équipages.
Mais tu as combien d'employés?
Des pilotes chaque voyage.
Mais tu as combien de
pilotes? Il y aura combien? 300 euros.
300 euros par voyage.
Ouais, un voyage, il revient à 300 euros. L'autre, ça fait 600 euros.
600 euros à chaque voyage.
À chaque fois que les bateaux ont été pris.
Confisqués.
Et alors, les pilotes, qu'est-ce qu'ils sont devenus là-dedans? Ils ont été arrêtés.
Les pilotes seront enfermés, sont emprisonnés à Mayotte.
Ils sont emprisonnés? Tes 4 pilotes, ils sont emprisonnés à Mayotte?
À Mayotte, oui.
D'accord, d'accord. Et les gens qui étaient à bord?
Ils ont emballé ici.
Emballé par. Ça, c'est quoi? C'est Mayotte qui les ramène?
Qui les ramène ici aux Comores.
Ah, d'accord.
Après, comme
d'accord.
Moi, je travaille les moments des mauvais temps.
Que tu aimes travailler quand il y a mauvais temps?
Il y a mauvais temps parce que les flics là-bas, les sécurités, ne peuvent pas rester à la mer. C'est là que je risque. Je prends mes risques d'y aller. Mais le temps est comme ça, moi, je ne peux pas travailler.
Parce que c'est calme là.
C'est calme, problème. Après, la sécurité est beaucoup là-bas. Mais si les mauvais temps sont durs, c'est là que j'ai profité de rentrer.
Alors, raconte-moi, combien ça coûte un quoi ça? Le bateau, combien il coûte?
4000 euros.
4000 euros, c'est là
que. C'est 2 millions de francs comoriens.
4000 euros le bateau.
Oui, oui.
Alors, sur le bateau, il y a deux moteurs.
Il y a deux moteurs.
Qui coûtent combien?
6000 euros.
6000 euros.
3000 et 3000. À bord du bateau, tu mets combien de passagers?
18.
18.
Parce que moi, on m'a dit jusqu'à 30.
Ça ah va? Ouais, il y a quelqu'un. Parce que selon de l'agrandissement de la coque.
Selon la capacité de grandeur de la coque, on peut amener jusqu'à 30.
Jusqu'à 30, 35.
Ah. Alors, ça coûte combien?
Le quoi?
Mais pour les passagers, le passage. 150 euros.
150 euros, si les gens en joignent, ils paient 100 euros. S'ils viennent du Grand Comore, 150 jusqu'à 200, selon de la capacité des passagers.
Bon. Mm-hmm. Quel est le nombre de passagers par mois?
Non, moi je n'arrive pas à faire compte parce que chaque semaine, je dois faire 2 voyages, 3 voyages par semaine. Il y a quelques fois, j'ai fait une semaine, 5 voyages, selon des passagers, s'il arrive l'activité.
Et toi aussi, pareil?
Je fais tout les jours sauf le mardi.
En fait, vous êtes des petits chefs d'entreprise. Quoi. Vous avez c'est des petites entreprises.
C'est pas entreprise, parce que ça, c'est une chose risque.
Risquant.
Parce qu'il y a quelques fois qu'on l'achète et dit aujourd'hui.
Tu l'achètes aujourd'hui,
ouais.
Tu le descends ici.
Ouais.
Il va à Mayotte et le même jour va confisquer à Mayotte. Le même jour.
Le même jour. On sera obligé de chercher encore l'argent d'acheter de notre coque.
En fait, vous répondez à une situation complètement absurde, quoi. Hein?
Évidemment. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas. Nous, on file comme ça, c'est tout.
Et comment tu fais la nuit? Alors, tu vas au pif comme ça, tu t'orientes.
Non, si tu fais 50 mètres,
50 mètres déjà, tu vois la lumière de Mayotte.
Ah, d'ici la nuit, tu vois la lumière
de Mayotte. Tu vois la plage d'Anjouin, tu vois l'île de Mayotte. Le tombeau du soleil, on voit la lumière du Mayotte. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va avec des boussoles
de GPS.
Et des GPS. Le GPS, c'est les yeux, c'est le GPS. C'est fini.
C'est tout.
Et vous êtes combien comme ça de passeurs?
Ah, beaucoup de monde maintenant.
Ah, il y a la concurrence.
Ah, maintenant, oui, il y a les concurrences, c'est ça que j'ai abandonné.
Tu as une idée de combien de passeurs ici à Anjouin?
Il y a un peu jusqu'à 10 à 20.
Ah ouais, hein? Environ.
Environ, 10 à 20.
Mais c'est toi le premier?
Avant, c'est moi
si,
le premier.
Si, j'étais le premier.
C'était le chef.
Ah ouais.
Mais je suis le premier commencé par rapport à lui. Mais lui, c'était un type vraiment très dynamique.
Il m'a influencé.
Toi, c'était le Kwasa, lui, c'était le moteur.
Des passagers aussi. Parce que tout le monde connaît Jimmy.
Jimmy.
Mais maintenant, moi, j'ai refusé de faire parce que j'étais en tôle. C'est ça que j'ai stoppé de faire ça, ces trucs.
Quand tu ne fais plus toi-même?
Ah, moi, je ne fais pas maintenant. J'ai refusé maintenant. J'étais en tôle, j'ai fait un mois et demi l'année passée.
L'année passée, tu t'es fait un mois et demi de
tôle? Un mois et demi. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème à la mer. Tout le monde y connaît que Jimmy l'a fait bon jusqu'à aujourd'hui. Uh-huh. Mais maintenant, je ne fais pas. À partir de l'année passée, je refusais de faire. Parce que l'État, il m'a refusé. Il m'a dit, s'il me trouve encore une fois, il doit m'envoyer 3 ans en tôle. Donc, je ne peux pas. J'ai 10 enfants chez moi.
T'as combien d'enfants?
10 enfants.
Ouh.
6 filles, 4 garçons.
6 filles.
Avec location de maison, je ne travaille pas.
Mais vous avez réussi à mettre un peu, à faire un peu d'économie quand même, à mettre un peu d'argent.
Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent.
C'est trop de dépenses, trop de dépenses.
Ah oui, toujours la petite entreprise.
Il y a le service de gardiennage, il y a le carburant, il y a le pilote. Hein?
Et puis il y a des pots de vin quand même un petit peu.
Et il y a quelqu'un, il vient qu'il n'y a pas 10 sous, même un franc. Tu voulais les deux. Il a demandé de excuses. J'ai demandé à Jimmy d'aller à Mayotte. Si je trouve l'argent là-bas, je peux t'envoyer.
Ah, tu fais crédit, tu veux dire?
Ouais, il fait du crédit.
Il fait du crédit.
Ouais, beaucoup de gens ont fait du crédit.
Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des bakchiches à verser aux autorités ici?
Non. Ah, s'il y avait des bakchiches, je ne peux pas rentrer en tôle.
S'il y avait des bakchiches, tu n'irais pas en tôle.
Oh, ouais.
Donc si tu vas en tôle, ça prouve qu'il n'y a pas de bakchiches.
Il n'y a pas de bakchiches.
T'es sûr? Bon, enfin, de toute façon, si c'était vrai, vous ne me le diriez pas.
Hein. Ah non, pas, non. Pas, on ne s'est jamais vu. Tout est fou.
Et les bateaux reviennent comment, les coques, là? Ça revient à vide ou vous
Ils reviennent vide avec 2 pilotes, c'est tout.
Moi, ce qu'on m'a dit, qu'on ramenait des marchandises.
Non. Ah bon, il y a du gangster, il fait, mais c'est pas nous.
Des gangsters qui font le truc.
Ouais. Parce que c'est du gangster, la mafia toujours ça passe, hein, au monde entier, ouais.
Ah oui.
Donc, chacun son boulot, hein.
Ouais. En tout cas, ce que vous savez, c'est qu'il existe des gars qui ramènent de la marchandise. C'est pas vous, mais il y en a qui ramènent de la marchandise. Ils ramènent des télés, ils ramènent des.
Nous, on ne savait pas parce qu'on n'a jamais insisté ce truc, ouais.
T'as eu des accidents, toi?
Un accident. En quittant la plage, il y avait une grande vague. Et puis, il a renversé le bateau. Donc, j'avais eu 4 morts.
4 morts. C'était quand?
C'est longtemps. Septembre 2003.
Parce que généralement, c'est des gens qui ne savent pas nager.
Oui.
Tu sais nager, toi?
Dis-moi.
Oui.
Moi, je sais tout.
Tu sais tout, d'accord. Mais les gens ne savent pas nager.
Ils ne savent pas nager.
C'est pas beaucoup utile, c'est. Des trucs.
Ils ne savent pas nager.
Mais on n'a pas les choix. Si quelqu'un vient
enfants,
à
Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant de faire le bateau, là?
Qui, moi?
Ouais.
J'étais un enseignant.
Ah, je m'en doutais.
J'étais un enseignant. Donc, je suis devenu un grand chômeur.
De la vie.
De la vie. J'étais tourné à droite, à gauche.
Un grand chômeur de la vie.
De la vie. Je ne fais rien.
Je n'arrive pas à voler.
T'arrives pas à voler.
Je n'arrive pas à tuer quelqu'un, je n'arrive pas à voler, j'ai besoin d'avoir 10 sous, d'aider mes familles. C'est là que j'insiste de faire des kwasa-kwasa. C'est tout. Alors maintenant, j'ai eu un petit boulot, j'abandonne des kwasa-kwasa. C'est tout.
Alors dis donc, s'il y avait une suppression du visa baladure, c'est-à-dire que si les gens pouvaient, vos compatriotes, là, en Joanet, pouvaient circuler plus facilement, vous auriez plus de boulot.
S'il n'y a pas de visa là-bas, je croyais que les Anjouanais ne restaient plus là-bas. Ils passent d'acheter des choses, ils passent voir sa famille, ils passent voir le boulot. S'il n'y a pas, ils doivent rester chez eux.
Ouais.
Mais à partir des visas, c'est là que les Anjouanais restent là-bas. Parce que s'ils retournent, le problème de Kwasa-Kwasa, ils s'emmerdent. Parce qu'ils perdent passer plusieurs fois là-bas.
Donc tant que la pauvreté s'augmente, et la clandestinité s'augmente aussi. Parce qu'on quitte ici à cause de la pauvreté. Donc, on était obligé de prendre risque d'aller à Mayotte pour chercher un emploi. Mais s'il y a des emplois ici aux Comores, un Comorien ou une Comorienne n'est jamais quitté ce pays pour aller à Mayotte. Parce que Mayotte, c'était une île vraiment. Des gens qui nous traitent, nous, les Comoriens, comme des animaux. Les Maoriens nous traitent, ici, les Comoriens, comme des animaux. Donc, on va à Mayotte parce qu'on n'a pas de choix.
On n'a pas le choix.
Donc, il dit qu'il vaut mieux mourir. Que vivre dans une vie misérable. Vous me rentrez à Mayotte pour chercher 6 jours un emploi. Nous ne ferons jamais rêve d'avoir un avion ou bien de quoi. Nous avons des rêves, avoir quelque chose à vivre, avoir quelque chose à manger, à habiller et loger. Un point, un trait.
Ah, moi, je ne savais pas. Ah oui, moi je ne savais pas ça. C'est les gens qui s'est écrit, qui s'est politique, c'est là qu'ils doivent parler ça. Parce que ça, c'est pas pour moi. Je suis lettré à 100%, j'ai jamais mis mon pied à l'école depuis ma naissance. Mais j'ai eu de la chance à cause de mes amis, c'est là que je sais parler.
T'as jamais mis le pied à l'école?
L'école, jamais, interdit de ma vie. Je ne savais même pas comment on fait les écrits. Mais mes amis à 80%, ils sont tous intellectuels. Donc s'ils discutent, ils discutent en français, en anglais, c'est là que je sais un peu.
Alors lui, c'est un intellectuel.
Ah, mais il sait beaucoup. Il est fort que moi.
Alors tu parles anglais aussi, pareil?
Un peu, small, small.
Small, small. Ah, yeah. Just a little. Ok.
Yeah.
Avec Jimmy, le passeur. Alors, il était obligé de nous quitter parce que il est chargé de la sécurité. C'est vrai. Au port d'Anjouan, Jimmy s'occupe de la sécurité. Voilà, ces deux passeurs. On continuera demain la balade et la découverte d'Anjouan et de Mayotte et des autres îles. Mais j'ai je vous signale un bouquin, je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer, mais il est formidable. C'est un recueil d'études sur Mayotte. Ça s'intitule Regard sur Mayotte. C'est publié par l'INALCO. Et il y a un travail d'un chercheur qui s'appelle Vincent Forest, qui est responsable des archives à Mayotte et qui fait état de la question de l'immigration à Mayotte au cours de la période sucrière, hein, qui a duré de 1845 à 1900 à peu près, au moment de la colonisation des Comores par la France. C'était une île à sucre. On s'est installé là, nos ancêtres se sont installés là pour se sucrer, littéralement, parce qu'il y avait du pognon à se faire, bien sûr. Bon, c'était la colonisation. Et alors, le grand problème qu'avaient ces colons, eh ben, c'était de trouver de la main-d'œuvre. Ils n'arrivaient pas à trouver de la main-d'œuvre. Les gens étaient peu enclins à se faire exploiter, se faire cogner par ces colons. Ça leur plaisait pas, ça va paraître bizarre. Alors, ils étaient obligés de faire venir de la main-d'œuvre et parfois de force. Et d'où ça? Eh bien, d'Anjouan, par exemple. Des côtes malgaches du Mozambique, etc. Mais aussi d'Anjouan. Donc, là, si vous voulez, la migration, eh ben, a commencé de façon forcée. Si aujourd'hui la France renvoie ces gens, eh bien, il fut un temps où on allait les chercher de force. Voilà. Merci à tous. Les reportages étaient avec Guy Vanctil. À lire de Pierre Caminade, Comores, Mayotte, une histoire néocoloniale aux éditions Agone. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Je signale aussi un repère des amis de Là-bas si j'y suis qui a lieu ce soir à Gémenos, au bar de la Pipe à 5 km d'Aubagne. C'est 14 rue Jean Jaurès et c'est à 19h. Technique, Ludivine Caron et Ludovic Asselot aujourd'hui. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello
Le Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. J'avais oublié qu'il y avait un peu de réclame.